Eh bien, bonjour à vous toutes et tous. Je n'aime pas répéter les choses, mais j'ai du plaisir à être parmi vous. Ce matin, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, je me suis dit, allez, on va s'encourager. Alors, j'ai ouvert la parole de Dieu. Et j'ai trouvé dans Matthieu 18 un verset qui est significatif. Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Puissions-nous dire Amen. Alors, ce matin, il me semble que vous attendez quelque chose. C'est la suite de ce que j'ai apporté il y a un mois, je crois, maintenant. Alors, vous vous souvenez que nous avions partagé un verset, la première partie, et aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième. Mais de manière à ce qu'on puisse quand même un petit peu se souvenir, qui se souvient du verset ? Merci, c'est bien ce que je pensais. Je vous le relis donc. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Ça, c'était la première partie. Et voici la deuxième, sur laquelle je mets un titre significatif également, le défi de Dieu. Voici la fin du texte. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, dit Jésus, il vous le donne. Amen. Je désire nous rappeler ce que Dieu fait. Il sait pourquoi il le fait et il ne se trompe jamais. J'aime bien quand on peut avoir ensemble une communication. Donc, n'hésitez pas à dire Amen, à dire Alléluia et à répondre à ce que Dieu met dans votre cœur et sur votre cœur. Donc, Jésus nous choisit afin que nous portions du fruit. Pas simplement quelques-uns, mais tous, il nous a choisis. C'est lui, Jésus, qui nous embauche, quel que soit notre âge, quels que soient nos dons et peut-être même nos handicaps. Ce verset a toute sa signification, mais il faut le lire dans le bon sens et en entier. Jésus ne nous a pas d'abord envoyés, mais d'abord, il nous a choisis, il nous a établis et il nous envoie. Pourquoi cet ordre, cette préscience de Dieu? Dieu connaît ce qu'il a mis en nous. Dans Jacques 4, au verset 5, nous pouvons lire « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie et avec amour que Dieu chérit l'Esprit qu'il habite et qu'il met en nous. » C'est pas très compliqué. Nous le vivons chaque jour de notre vie. dans nos relations avec les autres. Est-ce facile de vivre sa foi aujourd'hui? Comment sommes-nous perçus ou reçus? Comment témoigner? Toutes ces questions, Dieu se les est posées avant nous. Et c'est pour cette raison qu'il désire d'abord nous donner une identité. Je vous ai choisi. Et que nous puissions trouver notre place. Je vous ai établi. Afin, un petit mot, afin, c'est-à-dire avec une intention, avec un but. Cette préposition « afin », invariable, est la charnière de notre vie spirituelle. Il ne sert à rien de vouloir, même avec la plus grande détermination, suivre Jésus, si ces deux conditions ne sont pas remplies, avec une ferme assurance. Être choisi et être établi. Comme nous ne pouvons nous baser que sur la parole de Dieu pour croire à cette invitation, Dieu nous a promis en Jésus-Christ de nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, afin que de nous enseigner et effacer tout doute. Cette démarche de foi, c'est pour nous que Dieu l'a faite. Dans Hébreux 11, 1, nous pouvons lire un verset que nous devrions connaître par cœur. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Sans vouloir sortir du texte, mais afin de mieux comprendre le plan de Dieu pour nous, c'est quoi marcher par la foi? Romains 10, 17 nous donne une réponse. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et dans le cas présent, la parole de Christ est et demeure. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin, c'est-à-dire dès maintenant, ou lorsque vous aurez acquis cette assurance et ce choix divin. Puisque Dieu ne se trompe pas, qu'avons-nous à perdre que de lui faire confiance? Cet envoi, afin que vous alliez, renferme une richesse, pouvant se traduire par deux mots, confiance et responsabilité. Je trouve absolument extraordinaire de la part de Dieu qu'il place sa confiance en nous, qui, malheureusement, si souvent, mettons en avant nos doutes et notre incapacité humaine à entrer dans son plan. Et c'est là le vrai défi de Dieu à notre égard. Nous est-il possible de nous souvenir d'où nous venons et ce que Dieu a fait, ou pour d'autres, ce que nous sommes et ce que Dieu désire faire de nous? Dans la Bible, dans un des derniers livres du Nouveau Testament, Tite, au verset 3 du chapitre 3, nous lisons « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Cette invitation divine nous concerne tous, jeunes et moins jeunes. Or, ai-je besoin de le répéter, Dieu est fidèle. Et il y en a parmi nous qui marchent dans l'obéissance à sa parole, entrant dans ce qu'il fait connaître. Et nous y trouvons une grande bénédiction. Sans doute, la responsabilité n'est pas moindre que le privilège. Et c'est pourquoi ceux qui appartiennent au Seigneur ont besoin d'être encouragés par la grâce qui est à la base de tout. Cet encouragement, nous l'avons trouvé dans la première partie du verset. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. » La bénédiction, elle, vient toujours du Seigneur Jésus et de la grâce qui est en lui. L'obéissance, elle suit et fait partie d'une faveur tellement imméritée. Mais il est certain que dans l'obéissance, il y a aussi une bénédiction supplémentaire. Or, notre cœur a besoin de se nourrir de l'obéissance et de la bénédiction qui s'y attache vers celui qui bénit, Dieu. S'il veut échapper aux dangers nouveaux qui se présentent devant nous et au mal qui sont autour de nous, la source de la puissance n'est jamais connu qu'en lui, en Dieu. Et en la grâce qui cherche et trouve, qui sauve et qui bénit. C'est pour ça qu'il me semble être de la plus grande importance, en insistant sur le gouvernement divin, que c'est lui et sa seule volonté souveraine qui nous ont choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Christ, mais c'est Christ qui nous a choisis. Et ce n'est pas seulement pour connaître et suivre Jésus notre Maître, non. Il nous a établis pour que nous allions et que nous portions du fruit. Voici donc une nouvelle notion dans la compréhension de ce texte. Je fais volontairement une différence entre un plat de fruits et un arbre qui porte du fruit. Notre identité, nous pouvons la trouver également dans cette assurance que Dieu a fait de nous des arbres solides, enracinés dans sa parole, et non pas seulement des plats remplis de beaux fruits. Dans Colossiens 2, au verset 6, nous lisons ceci. « Ainsi donc, frères et sœurs, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » Amen. Être enraciné, c'est avoir des racines, soit pivotantes pour les conifères, soit traçantes pour la plupart des feuillus. Mais ayant de quoi résister aux coups de vent que sont parfois dans nos vies le doute, la crainte, l'incrédulité, ou parfois aux tornades qui peuvent ressembler à des péchés non avoués, au refus de pardonner. Et souvenons-nous qu'un arbre déraciné ou mal enraciné ne portera pas de bons fruits, ni de beaux fruits. Et tôt ou tard, périra, car ce sont les petites racines qui donnent la sève aux grandes racines, qui donne la sève au tronc et aux fruits. Sans sève, pas de fruits. La parole de Dieu a cela d'extraordinaire. C'est qu'elle enrichit, qu'elle édifie et qu'elle cherche à offrir au lecteur une voie de bénédiction, portant beaucoup de fruits. Jésus, dans Jean 15, au verset 8, dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Notre verset que nous partageons aujourd'hui nous parle de porter du fruit qui demeure, c'est-à-dire qui ne se perd pas. Combien d'arbres ayant du fruit, manquant d'arrosage, perdent leurs fruits qui tombent à terre ou ne mûrissent pas, et l'année suivante n'ont presque aucun fruit. Seul un entretien des arbres que nous sommes nous permettront de porter du fruit, et il demeurera, se renouvelant chaque année. Ne sommes-nous pas admiratifs devant un arbre, dans la nature, au bord d'une route ou dans un verger, couvert non seulement de feuilles, mais aussi de succulents et nombreux fruits. Il en est de même pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous observent lorsqu'ils nous côtoient lorsqu'il passe à côté de nous, lorsqu'il nous écoute ou qu'il nous voit vivre, porter du fruit. C'est notre responsabilité. Et que ce fruit demeure, c'est notre engagement dans l'obéissance. Nous ne pourrons jamais porter de fruits habités par des vers, car alors, ils sont inconsommables. Des vers dans nos fruits. J'aime cette image tellement parlante que pour qu'un fruit ne renferme pas de vers, il faut d'abord s'occuper de l'arbre par des traitements adéquats, dès les bourgeons, puis à la floraison, en le taillant, c'est-à-dire pour notre arbre, en acceptant sans condition ce que Dieu nous a promis. Quelle est cette promesse? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et plus loin, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le mode d'emploi du traitement à effectuer sur les arbres, où le trouvons-nous? Sur l'emballage. Et le mode d'emploi du traitement à faire sur nos arbres, où se trouve-t-il? Dans la parole de Dieu. Souvent, nous lisons l'un, mais négligeons l'autre. Nous appliquons l'un, mais nous ne suivons pas vraiment l'autre. Et c'est alors que nous sommes déçus. Mais revenons à l'essentiel de la parole de Dieu. Repentons-nous. Changeons de mentalité. Aimons Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Et nous porterons du fruit, beaucoup de fruits. Mettons en pratique la parole de Dieu dans nos vies premièrement. Puis, allons et semons, ayant reçu nous-mêmes une semence divine, ayant été choisis et établis. Nous ne sommes pas un pommier avec des noix, ni un cerisier avec des ronces. Jésus, dans Luc 8, au verset 15, dit, dans sa parabole, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, avec sincérité, la retiennent, et alors ils porteront du fruit dans la persévérance. » Notre identité, ne l'oublions pas, est unique et nous appartient en propre. Le dernier verset que nous voulons lire parle de persévérance, c'est-à-dire persister et se maintenir et demeurer. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et l'assemblée dit Amen. Y a-t-il donc meilleur mode d'emploi? Je ne pense pas. Mais il faut le lire, ce mode d'emploi, jusqu'au bout, en comprendre le contenu, et oser demander, s'il est nécessaire, conseil. Et ce conseil, nous le trouvons à nouveau dans la parole de Dieu, dans Jean 14 au verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, mais pas avec de l'hypocrisie, pas avec de la religiosité. Soyons simplement vrais, soyons simplement sincères, et alors nous ne risquons pas d'être repris par la parole de Dieu qui dit: mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Que nous trouvons dans Luc 6 au verset 46. Une grande promesse repose sur chacun de nous, et aujourd'hui, ne la laissons pas s'échapper. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et la promesse, la voici, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Souvenons-nous que Dieu ne se trompe jamais. Lisons et relisons ensemble le véritable mode d'emploi. Et nous serons véritablement en mesure de demander à notre Père au nom de Jésus soit une bénédiction, soit une guérison, une transformation, d'abord sur nous, puis sur ceux vers qui Dieu nous enverra. Afin de concrétiser ce que nous venons de partager, nous trouvons dans nos cœurs et dans la parole de Dieu une prière qui résume le tout. Cette prière, c'est le Notre Père. Et j'aimerais vous inviter à vous lever et à prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses et ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.